Oui, bonjour. Pierre Delors, Association nationale des directeurs des systèmes d'information. On a eu les retours d'expérience de deux membres sur les RSE, des sites Devoteam et des sites Olympus. Et alors, ce qui nous a beaucoup surpris, relevé deux choses, c'est une grande subsidiarité, c'est-à-dire qu'en fait, les directions des systèmes d'information font très peu de choses, sont les utilisateurs qui créent leur communauté, y compris vers l'extérieur. Et second point, c'est le coût élevé de la conduite du changement. Alors, à Devoteam, qui en tant que société de services informatiques a un fort turnover, ils estiment à 2/3 du coût du projet la conduite du changement. Je ne pense pas que vous soyez informaticien, mais si vous avez des commentaires à faire.
Pour voir la résistance au changement, ça devrait être ce ratio-là, en fait. Ça veut dire que le coût en lui-même de l'outil, c'est pratiquement rien. Et si on ne fait rien et qu'on met un outil, et je connais des personnes comme la SNCF, par exemple, qui a mis en place un outil qu'ils avaient fait développer, qui avait coûté pas très cher, mais qui n'avait absolument rien fait en termes de conduite du changement pendant plusieurs années, rien ne s'est passé. Ils avaient 100 utilisateurs. Et le jour où elle a enclenché un réel changement, qu'elle a commencé à communiquer, qu'elle a commencé à former, qu'elle a commencé à accompagner, là maintenant elle est à 10 ou 12 ou 15 000 utilisateurs parce que c'est ce qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas obliger les gens à collaborer, on ne peut pas obliger les gens à partager. Il faut qu'ils le fassent volontairement. Alors à chaque fois on dit oui mais sur Facebook les gens y vont, oui mais sur les réseaux externes les gens y vont parce qu'ils ont quelque chose à y faire à l'extérieur, parce qu'ils doivent rencontrer les gens qu'ils ont envie de rencontrer, ils veulent rencontrer les gens qui ont la même passion, etc. En entreprise c'est pas du tout la même chose, vous êtes là pour travailler, vous n'êtes pas là pour communiquer, vous n'êtes pas là pour en faire plus que ce qu'on vous demande. Et si en plus dans votre projet personnel annuel, enfin vos objectifs annuels, il n'est pas indiqué que vous devez partager, pourquoi vous iriez partager? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Donc il est très clair que pour que les gens comprennent encore une fois pourquoi ils doivent partager, pourquoi ils doivent être là, pourquoi ils doivent communiquer, et ben ça se fait pas tout seul. Il faut faire de la communication, il faut faire des serious games, il faut faire tout un tas de choses qui va faire en sorte que les gens comprennent à quoi sert l'outil, comprennent quel rôle ils ont à jouer dedans et ne se posent pas systématiquement la question qui je suis pour partager quelque chose.
Moi, je suis totalement d'accord et le chiffre ne me surprend pas non plus. Parce que ce dont on parle, et c'est d'ailleurs, je crois, dans la conclusion de la note de Denis, c'est que ce dont on parle, c'est de collaboration et c'est un sujet complexe par définition. Et en l'occurrence, sur les réseaux sociaux, on a un mélange de savoir maîtriser l'outil. Nous, par exemple, on a dans l'autre une fonctionnalité qui est passionnante, qui est un petit plugin qui est mis dans vos logiciels Microsoft, notamment PowerPoint, Excel et Word, et qui vous permet de collaborer à plusieurs sur un document. Donc ça, en théorie, ça intéresse beaucoup de gens, mais il faut vraiment prendre les gens par la main et littéralement les former. Et derrière, l'enjeu, c'est que on a des documents qui sont travaillés de manière plus efficace. Il y a un gain de temps énorme. Et parfois même, on accouche de documents beaucoup plus riches qu'ils n'étaient auparavant. Donc je pense qu'en termes de création de valeur, il y a des choses intéressantes. Mais on est, avec un exemple comme ça, on est vraiment dans le dur du sujet. C'est-à-dire que faut former, faut convaincre. Puis on a tous nos petites habitudes. Le soir à 19h30, le vendredi, même si la messagerie est pleine et que c'est embêtant de faire partir un PowerPoint de 5 mégas alors que sa boîte est pleine, on continue à essayer d'appuyer que ça parte. Alors que sur le réseau social, on aurait pu le partager, le commenter, etc. Mais il faut changer nos habitudes et on est tous aussi prisonniers de ça. Et donc c'est ça qu'il faut, entre guillemets, vendre. Et là encore, je redis, il y a une espèce de mélange de séduction et de contrainte. Il faut un peu faire carotte et bâton quand même.
Dans ma note, justement, je cite Anthony Poncier, qui est l'expert chez Publicis des réseaux sociaux d'entreprise. Et quand je l'avais raconté, il m'avait dit, justement, pour lui, il y a la loi du 80-20. Ce qu'il observe, c'est que les entreprises aujourd'hui dépensent 80% sur l'outil et 20% sur la conduite du changement. Et pour lui, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être 20% sur l'outil, 80% sur la conduite du changement. Après, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est aussi les RSE se sont développés dans une période de crise économique. Et du coup, les entreprises ont peut-être parfois voulu réduire les coûts. Et quand on réduit les coûts, c'est rarement sur l'outil en tant que tel qu'on réduit les coûts, mais plus sur l'accompagnement du changement. Et donc, ça peut être une explication qui fait que certaines entreprises, en fait, ont peut-être sous-estimé l'importance de la conduite du changement.
Qu'est-ce que vous appelez accompagnement du changement? C'est des prestataires extérieurs, facturés, vous avez consultants ou c'est en interne?
Les deux, mon capitaine. Nous, on a fait les deux. C'est-à-dire qu'on a notamment sollicité les services d'Anthony Poncier avant qu'il soit chez Publicis, qui nous a donné un certain nombre de repères. Voilà, il n'est pas resté très longtemps, au nombre de jours, c'était raisonnable. Et derrière, on a créé une équipe interne multidisciplinaire, ce qui fait pas tout, mais qui nous permettait, nous, d'avoir un... En gros, on avait des gens qui faisaient à peu près 0,2 postes chacun, 4-5 personnes. Donc au total, on avait l'équivalent d'un poste. Ça a permis de démarrer. Ça a permis aussi de voir que sur la durée, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que 0,2 postes d'une personne, ça veut dire que personne n'est à plein temps sur le sujet. Le jour où on a une simple stagiaire qui avait à peu près le profil dont on avait besoin, mais qui était elle à plein temps, on a vu décoller l'utilisation et la création de communautés. Donc on a démontré que les choses étaient sérieuses et que l'accompagnement, c'était du temps et des gens, c'est-à-dire de l'humain. Et donc la stagiaire, on l'a embauchée. Et là, on a vraiment, vraiment décollé parce qu'on a gardé nos 0,2 postes, dont moi, par exemple, qui suis parfois certains mois même pas à 0,2 postes sur le projet. Mais voilà, donc c'est ça dont on parle, c'est d'être au contact, quoi. Parce qu'il faut répondre aux gens, les gens appellent n'importe quand, ils sont bloqués sur un truc, les gens appellent parce qu'ils veulent qu'on vienne leur présenter l'outil. Donc il y a des petites demandes très simples de blocage technique, et puis il y a des choses très ambitieuses, très macro, où vous avez un directeur général qui dit « je veux que vous veniez la semaine prochaine dans ma réunion de direction présenter à quoi ça peut me servir ». Vous avez les deux, donc il faut savoir faire tout ça.
Alors après, il y a aussi les côtés, parce que nous on est beaucoup à low cost, donc on essaie de réduire au maximum, et c'est un peu les côtés de l'accompagnement des pairs. C'est-à-dire arriver, pour revenir un peu à la question aussi, pourquoi je vais sur Facebook? Je vais sur Facebook parce que mes copains sont sur Facebook. Donc là, c'est un peu la même attitude. Pourquoi j'utilise la plateforme? Parce que mon collègue l'utilise, il l'utilise bien et il y a du succès. Quand je lui parle, je lui demande, il m'aide. Parce qu'il y a aussi ces côtés aussi. Peut-être que je ne vais pas demander à un chef, à quelqu'un d'autre, à l'informatique, de m'expliquer comment ça marche un truc. Mais quand mon collègue l'utilise, il l'utilise bien et qu'il y a une nouvelle fonctionnalité en plus, c'est pas mal. Donc nous, on a essayé de marcher dans cet esprit-là. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple, quand quelqu'un vient vous voir parce qu'il veut ouvrir une communauté, notre idée, c'est déjà d'essayer de comprendre quelle est sa problématique. Et les devoirs que nous donnons, c'est d'aller voir les 3 ou 4 responsables de communauté qui ont à peu près la même problématique. On le demande de lui faire un interview pour lui demander comment utilise la plateforme. Ça permet de créer cette espèce de spirale positive dans laquelle les personnes se connaissent et s'aident. Alors pour moi, ça aussi, c'est de l'accompagnement. C'est-à-dire arriver à mettre en place cette démarche, c'est aussi de l'accompagnement, même si c'est moins cher qu'avoir quelqu'un d'extérieur, mais ça prend aussi du temps pour le mettre en place.
Alors, j'ai cité un petit exemple d'accompagnement qu'on a mis en place, mais qui est absolument indispensable, pour nous en tout cas. On s'est rendu compte en fait que les gens ne savaient pas chercher. Même sur Internet, les gens ne savent pas chercher. En grande majorité, quand vous demandez à quelqu'un comment il cherche, il tape un mot, il a 3 millions de résultats sur Google, puis il ouvre les 5 premiers, il se dit « Ok, c'est bon, j'ai trouvé ma réponse ». Et puis les 2 995 000 qui sont derrière, ils s'en moquent complètement alors qu'ils pourraient avoir des choses très intéressantes. En entreprise, quand les gens ont un moteur qui fonctionne, un moteur full text, ils tapent un mot et puis ils ont 300 résultats. Ils disent « Oh là là, c'est beaucoup trop, je ne pourrais pas tous les ouvrir ». Donc déjà, vous avez une différence de comportement entre Google et le moteur en interne, même si c'est exactement le même fonctionnement. Parce qu'ils veulent avoir confiance dans ce qu'ils vont trouver. Donc il faut leur apprendre à chercher. Alors il faut leur apprendre à mettre plusieurs mots, il faut leur apprendre à utiliser les tags, exactement comme sur Amazon ou comme sur tout site internet. Mais en entreprise, ils ont besoin d'être rassurés. Donc on a lancé une chasse au trésor. On leur a appris en 3 étapes à utiliser les tags, à utiliser les mots pour chercher, à utiliser les filtres pour aller chercher l'information dont ils ont besoin. Donc en 3 semaines, on leur apprend ça en leur envoyant des petites informations bien, bien ciblées. Puis les 3 semaines d'après, on leur pose 3 questions, mais des vraies questions comme dans la vraie vie. Et les gens doivent aller chercher l'information avec les connaissances qu'ils ont acquises les semaines précédentes. Comment j'utilise les tags, comment j'utilise les mots, etc. Alors vous me direz, ok, bon, les gens vont savoir comment ça marche, mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont aller dessus? On a fait une vraie chasse au trésor, on leur a fait gagner des louis d'or, des vrais louis d'or. Mais en faisant gagner 10 louis d'or et en ayant en face de vous 30 000 personnes à former, la formation des gens, et on a tout fait en interne naturellement, on a fait le quiz, on avait, grâce à l'outil, on pouvait avoir les réponses. On leur a posé 6 questions, un peu senties. On a rédigé le pourquoi du comment. Comme on a des knowledge managers dans les pays, c'était traduit localement et les gens recevaient l'information dans leur langue. Et donc, on a pu former 30 000 personnes avec le prix de 10 louis d'or. Donc, coût de la formation par personne, je vous laisse calculer, ça ne va pas très loin. Ouais, mais même, ça ne fait pas trop cher. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en interne, on a beaucoup de choses, on peut avoir beaucoup d'idées. Quelquefois, il faut passer par l'externe si on doit faire des animations, des vidéos, des choses un peu complexes où on n'a pas forcément les compétences en interne. Mais en interne, on connaît les utilisateurs, on sait ce qu'ils cherchent, on sait comment ils le cherchent. Les gens sont très près du terrain, ou pas forcément près du terrain. Quand on est au corporate, on est près du top management. On sait ce qu'ils cherchent, on sait ce qu'ils veulent. Et on arrive à trouver des idées qui vont être fédératrices et qui vont faire en sorte que les gens nous suivent. Alors effectivement, on va quelquefois à l'extérieur. Mais globalement, l'accompagnement peut coûter très cher si on le sous-traite complètement. Mais si on connaît bien ces gens, on peut avancer d'une manière assez sereine et pour des coûts qui sont somme toute pas très élevés au regard des résultats obtenus.
Nicole Fenerol, je suis ethnologue et j'ai travaillé chez Sodexo à une époque où Sodexo s'écrivait encore avec un H, c'est-à-dire jusqu'au début des années 2000. Et on a travaillé sur les questions culturelles, l'appartenance, l'échange de bonnes pratiques. Donc c'était déjà des questions à l'époque. Et l'ouverture actuelle, c'était un rêve. Évidemment inaccessible. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Dans cette émergence de pratiques, de communautés collaboratives, pour que ces communautés puissent se maintenir, durer? Est-ce qu'il faut qu'il y ait toujours un porteur de projet? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une équipe qui s'en occupe et qui permette au mouvement de continuer? Voilà, c'est ça mon souci.
De mon expérience et personnellement, oui. J'interviens suivant à des réunions, à des conférences et je parle du projet de mise en place de cet réseau social d'entreprise chez nous. Et quelquefois, quand on parle, ça semble une belle histoire, que c'est passé tranquillement, c'est jamais comme ça. Ce sont des hauts, des bas, des droites, des gauches. Et en réalité, il y a quand même des phases. Et il y a, au début, il y a un intérêt, il y a le plaisir. Après, la chose tombe un peu. Donc, il faut vraiment avoir quelqu'un qui arrive toujours à maintenir un peu la barre en haut et la dynamique. D'ailleurs, on n'a pas vraiment beaucoup de communautés d'intérêt, comme on dit, je ne sais pas, la communauté des personnes qui aiment les cinémas ou des choses comme ça. Non pas parce qu'on ne veut pas les mettre en place, c'est simplement parce qu'on nous demandons qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Quand quelqu'un commence à lui dire, vous voulez mettre en place cette communauté pour faire quoi? Parce que les personnes parlent. Ok, d'accord, mais on part sur quoi? Qu'il va les animer? Personne, on va les mettre en place, on verra. On n'est pas trop chaud pour mettre en place des choses pareilles. Parce que de notre expérience, en fait, s'il n'y a pas quelqu'un qui tire, les choses ne seront pas mises en place. En tout cas, c'est l'expérience personnelle que j'ai.
Bonsoir, Guylaine David. Je suis consultante en transformation et la plupart de mes clients ont amorcé, sont en cours de réflexion sur des sujets comme ceux dont vous parlez. Un des freins colossaux qu'on rencontre, c'est la résistance du management. Parce que de tout ce que vous avez dit, on comprend que celui qui est évidemment instantanément impacté par tout ça, c'est le manager. Si ses collaborateurs commencent à être libres d'aller parler à qui ils veulent, en dehors de son équipe, éventuellement avec des gens qu'il ne connaît pas, ça pose un problème. Vous parliez de confiance-contrôle. Avez-vous rencontré ce type de réticence? Et si oui, qu'avez-vous fait pour les surmonter?
Faites-les causer. Il n'y a rien de mieux que la parole. Moi, je pense qu'il faut que les gens s'expriment là-dessus. C'est des craintes légitimes. Mais comme je le disais, c'est pas parce qu'on met en place un réseau social qu'on efface et on met à la broyeuse les organigrammes. Les gens qui vont aller sur les réseaux sociaux, elles continuent à avoir un chef, elles continuent à lui devoir des comptes, à lui reporter, etc. La crainte, c'est que ça fasse de la circulation latérale d'informations. C'est surtout ça, leur crainte. Et donc, qu'il se passe des choses et qu'ils soient court-circuités. Nous, c'est pour ça qu'on avait choisi un outil qui avait un volet mobile. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Parce qu'on s'était dit que ça permettait de devancer une critique qui était justement qu'on ne voulait pas qu'il y ait une volée de bouclier de notre management sur le fait que ça allait se passer sans eux, puisqu'ils étaient dans des réunions, puisqu'ils étaient en voyage, etc. Donc, le fait que l'outil était d'emblée accessible, notamment sur smartphone, à l'époque, il n'y avait pas encore les tablettes. Ça a permis de lever cette objection-là, mais finalement, elle a été assez faible. Et ça se passe assez bien. Après, ce qui rassure, c'est de travailler sur la gouvernance, de regarder comment ça va se passer, comment c'est contrôlé, qui fait quoi, etc. Parce que c'est souvent ça, les questions qui fâchent. Et quand vous avez traité ces deux sujets-là, en général, c'est rare que vous ayez un no-go catégorique ou vraiment un blocage majeur. Nous, de faire parler les gens, ça a permis de revenir. Les gens qu'on a fait parler dans des ateliers, ça a permis de revenir notamment vers le... Nous, on avait une demande du board du directeur de JC2Co sur ce sujet-là. C'était, on veut en savoir plus sur les réseaux sociaux internes. Donc, on a eu une période un peu exploratoire où, à intervalles réguliers, on revenait vers le directoire avec des points d'étape. Et à la fin, ils nous ont dit « Allez-y ». Ils avaient des questions beaucoup là-dessus. Puis finalement, à force d'en discuter, c'est également parti. Donc, il y a eu aussi du dialogue à un très haut niveau, finalement. Et eux se sont fait aussi leur culture et ont eu de moins en moins peur. Donc, ça, c'est important. Et sur la perte de contrôle, finalement, ça s'est bien passé.
Nous, on a tenté de leur... on a tenté de leur expliquer. Donc, leur rôle changeait. Ils n'étaient plus distributeurs de savoir, mais ils étaient animateurs d'équipe. Et qu'est-ce qui faisait qu'ils allaient être motivés en tant qu'animateurs d'équipe? Parce que ce n'était pas forcément leur boulot. Ils étaient toujours patrons des gens. Mais donc, on leur propose de faire en sorte que les gens donnent et que les gens utilisent les savoirs qui sont mis en ligne sur la plateforme. Alors, sur les savoirs qui sont mis en ligne, leur nom figure, ce qui veut dire qu'ils sont mis en valeur. Et quand ils prennent de l'information et qu'ils la partagent chez eux, donc ils ont fait acte de motivation et d'incentive auprès de leur troupe pour dire « Attendez, allez sur la plateforme, utilisez la plateforme, il y a peut-être des choses qui vont nous servir. » Le groupe, on a réussi à faire en sorte que le groupe, chaque année, remette un award, enfin 5 en fait, parce qu'il y a 5 thèmes différents, du meilleur transfert de bonnes pratiques qui a eu lieu dans le monde. Et celui qui est récompensé, c'est le patron et son équipe. Ce qui veut dire que les managers sont motivés dans les deux sens, parce qu'ils sont visibles, ils deviennent visibles sur ce qu'ils mettent, ils deviennent visibles sur ce qu'ils valident, et ils deviennent visibles sur tout ce qu'ils transfèrent. Et ils deviennent, en fait, non plus, on leur a expliqué, on a fait un petit film là-dessus, c'est qu'auparavant on disait que détenir le savoir, c'était avoir le pouvoir, et maintenant on leur dit que distribuer le savoir, c'est avoir la puissance.
Je ne sais pas quelle est la taille des entreprises avec lesquelles vous travaillez, mais je me rappelle qu'il y a 4 ans, on avait fait une soirée de l'École de Paris qui s'appelait Révolution numérique, mode d'emploi, un nom comme ça. On avait fait venir une entreprise qui s'appelait Lipi, 500 personnes, dont les patrons avaient décidé de se saisir de tous les nouveaux outils. L'entreprise, petit à petit, s'y était mise. Je sais que la salle avait été stupéfaite. Elle m'a dit, mais ils sont fous d'aller dans cette direction. Au bout d'un moment, la production était gérée par Twitter. C'est-à-dire les ouvriers communiquaient entre eux par Twitter avec les méthodes et tout. Et des connexions improbables s'établissaient. Il y a des secrétaires qui s'étaient mis à répondre à des appels d'offres parce qu'elles faisaient des fermetures en grillage. Et comme il y a plein de gares qui lancent des appels d'offres, les secrétaires se mettaient à répondre, préparent les réponses aux appels d'offres. Bref, au bout d'un moment, il y a un cadre, deux cadres, trois cadres qui ont disparu. Disait le patron, pourquoi ils ont disparu? Ils ne servaient plus à rien. Alors, et surtout les cadres qui concevaient leur rôle comme le chef qui contrôle l'information, là, ça n'est pas. Ceux qui restaient avaient des profils d'animateurs. Donc, on peut comprendre effectivement que dans des cas comme ça où les connexions s'établissent, l'information circule, le management soit perturbé. Mais dans l'entreprise Lipi, ils étaient pris en squeeze entre les ouvriers qui avaient envie de communiquer et les patrons qui ne voulaient pas que les cadres empêchent. Les cadres n'avaient pas le choix, ils se soumettaient ou se démettaient.
Un petit complément, à un moment on s'est assuré qu'on était bien convergent sur un point, c'était de dire, parce que ça c'était remonté dans les ateliers et on l'a partagé avec le directoire, c'était de dire on est bien d'accord, et c'était avant le démarrage, le lancement du projet, on est bien d'accord que être sur la plateforme c'est du travail, et le board nous a dit formellement oui. Parce qu'on voulait pas qu'il y ait d'espèce de malentendu ou de flou là-dessus, et qu'on ait des comportements de managers ambivalents qui, après le lancement, tapent en disant « j'en ai chopé un, passé une heure là-dessus, ça a mal allé ». Et puis que derrière, on ait des exemples et des gens qui soient saisis, et qu'on ait jamais les discussions, les interactions qu'on voulait, qui réclamaient, qui exigeaient, qui exigent toujours de la confiance, et que les gens se lâchent un petit peu, quoi, se sentent pas tétanisés en tapant sur leur clavier, quoi. Donc on s'est vraiment assuré de ça. Nous, ça nous semblait un point très, très critique. Et on a acté ça. On a vraiment posé la question. Et les sponsors du projet ont posé la question formellement au directoire.
Alors on s'approche vraiment de la fin de la séance. J'ai noté encore 3 personnes. Et ce que je veux proposer, c'est que vous fassiez tous les 3 vos commentaires. Et puis les orateurs à la tribune notent et répondent à chacun ensuite.
Patrick Lio, le cabinet Belle Aventure de la conduite de transformation. Ma question, ça porte sur la barrière de la langue, en fait. Quelles sont les bonnes pratiques? Quelles sont l'expérience que vous avez pour comment dépasser les barrières, notamment les entreprises où l'anglais ne peut pas être considéré comme un langage pour toutes les communautés, en fait. Et donc, comment faire qu'il puisse exister des passages, en fait, entre les différents groupes linguistiques?
Christelle Tenvaux, cabinet IDRH. Vous avez parlé du rôle du community manager qui est clé pour faire vivre les communautés. Moi, j'aimerais savoir qui est cette personne. Où est-ce que vous allez la chercher? À combien de temps elle consacre au community management? Quel est le profil type du bon community manager? Comment est-ce qu'on fait vivre un groupe? Comment est-ce que vous disiez que vous fermez les groupes qui ne marchent pas? Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire vivre un groupe? Quelles sont les bonnes pratiques? Et est-ce que vous avez déjà vu des cas de groupes qui deviennent des plateformes de contestation d'un projet qu'ils ne veulent pas voir? Je prends un exemple. Vous mettez en place un nouvel outil dans une entreprise et vous demandez à l'équipe projet qui doit le déployer d'échanger sur le réseau social. Il s'avère que ça marche pas. Il y a des tas de problèmes techniques, etc. Ils se servent du réseau pour exprimer leur contestation. Est-ce que ça arrive? Est-ce qu'on peut voir ce genre de cas arriver? Et comment on gère les posts négatifs, surtout dans un contexte où on est censé laisser les gens s'exprimer? Est-ce qu'on peut supprimer des choses qui seraient particulièrement subversives? Voilà, merci.
Jean-Pierre Bouchèze, Université de Versailles-Saint-Quentin, IDRH. J'espère que vous allez vous souvenir de toutes les questions. 3 questions courtes. Premièrement, je suis extrêmement frappé que dans cette salle, il y ait beaucoup de jeunes seniors comme moi-même, ce qui est intéressant à observer. Et cette remarque va plus loin puisque j'observe que dans les entreprises, j'ai pas mal de contacts avec les gens qui font vos propres professions. Et les membres actifs des réseaux et des communautés sont souvent des gens de cette génération, ou génération X, mais très peu de Y. Donc ce point-là, j'aimerais que vous me le confirmiez.
Des seniors,
des oui, jeunes seniors.
Jeunes seniors, hein, 45 ans, vous savez maintenant. Ouais. C'est la frange quasi juridique. Deuxième remarque, il y a un débat, 2 termes qui reviennent très fréquemment dans vos débats, qui sont extrêmement intéressants, mais qui méritent à mon avis une précision. C'est le terme de communauté de pratique et de réseau social. Bon, il faut bien savoir qu'il peut y avoir des communautés de pratique d'experts fermées sans réseau social, notamment des communautés d'experts en particulier, qu'il peut y avoir des réseaux sociaux sans communauté de pratique. Donc il faut bien montrer que ces deux choses peuvent être totalement dissociées, mais évidemment, elles sont totalement associées. Donc le cercle vertueux, évidemment, c'est de faire en sorte qu'elles soient associées de manière à irriguer et développer les choses. Mais encore une fois, ce sont deux choses tout à fait différentes. On est dans les liens forts et les liens faibles, et j'aimerais que vous puissiez dire quelques mots là-dessus. Et dernier point très très court, propriété intellectuelle. Je pense qu'effectivement, c'est un vrai débat que j'observe également chez des interlocuteurs, à savoir que dans les communautés d'experts en particulier, il y a ouverte à l'extérieur, je pense notamment à des grands groupes français que on ne va pas citer, mais qui sont très très open, dans la haute technologie, où il y a effectivement des innovations non protégées, sans brevet, il y a des prises de risques extraordinaires, enfin très intéressantes, et donc là se pose une question, est-ce qu'il faut susciter l'innovation sans la mettre dans des brevets, faire de l'innovation ouverte et d'intelligence collective, ou au contraire, faut-il la marquer par des brevets, quitte à faire en sorte que les autres personnes ne puissent pas bénéficier des effets de cette innovation. J'en ai terminé.
Alors j'ai noté la langue, les community managers, la sociologie senior ou pas, et la propriété intellectuelle.
Bonjour Elisabeth Gauthier. Donc, si j'ai bien compris, donc les plateformes collaboratives ont été mises sous le chapeau de réseaux sociaux. Une question pour Monsieur Ablin, est-ce que vous pouvez juste donner un exemple de ce que vous faites sur ou vous pouvez faire sur les réseaux sociaux purs chez Lafarge ?
Alors, c'est un peu le café du commerce, mais en fait, les gens viennent, ont une idée. Tiens, si on faisait du béton phosphorescent dans une communauté, éventuellement ils créent une communauté autour du béton phosphorescent et les gens vont venir, ils invitent des gens, ils viennent et ils discutent sur un projet de béton phosphorescent, comment on pourrait faire, et proposent des idées, ils vont chercher des informations un peu partout, jusqu'à peut-être créer un document qui ensuite sera hébergé sur l'autre plateforme. Mais pendant un mois, deux mois, six mois, ils vont discuter autour d'un projet où ils vont traiter d'un problème technique ou toutes les choses qui ne sont pas rattachées à un document, tout ce qui peut se passer autour d'une table, autour d'une réunion, mais qui laisse des traces. Voilà. Et en fait, notre réseau social sert à ça, sert à faire de la discussion virtuelle ou du co-authoring de documents aussi ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment tout ce qui se passe avant la création d'un document final, en fait. Toute la réflexion. Une fois que le document est structuré, formalisé, il passe sur la plateforme de Knowledge Management.
C'est le rêve.
Voilà. Alors,
c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse tous.
Je vais simplement peut-être répondre à la première question sur le multilingue, parce que j'ai une expérience là-dessus. En fait, moi, c'était un des principaux freins qu'on avait concernant la précédente plateforme, puisqu'elle était seulement en français et en anglais. Donc là, ça a été un de mes critères de choix du fournisseur. J'ai cherché un fournisseur qui pouvait me développer un outil qui me permette de faire du multilingue. Aujourd'hui, notre outil est en 10 langues. Ce qui signifie que toutes les informations, l'interface utilisateur est en 10 langues naturellement, tous les tags sont traduits en 10 langues, ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui 1300 tags, mais c'est 1300 tags.
C'est avec une traduction automatique ?
Les 1300 tags sont traduits. Non, il n'y a pas la traduction automatique. En revanche, les gens peuvent mettre les documents avec le titre et le résumé systématiquement en anglais, c'est obligatoire, mais ils peuvent le rajouter dans leur langue, en chinois, en arabe, en russe, en polonais, en ce qu'ils veulent. Et les documents attachés sont mis dans la langue de la personne qui met le document. Si un polonais met un document, il va mettre des tags en polonais qui seront traduits dans les 10 langues automatiquement, ça c'est fait. Le titre et le résumé en anglais, il mettra le titre et le résumé en polonais et les documents attachés en polonais. Comme le titre et le résumé est en anglais, quelqu'un dans un autre pays peut se dire, en voyant le titre et le résumé, tiens, c'est intéressant. Je vais faire traduire le document attaché. Mais on ne fait pas la traduction du document automatique. Ça, c'est un peu le rêve aujourd'hui. Mais je n'ai pas dit non. Ce n'est pas mon dernier mot, en fait. Mais le fait d'avoir mis... On avait 6 langues et du jour au lendemain, on est passé au grec. On a mis donc le grec et les gens en Grèce ne mettaient rien parce que ce n'est pas la même police de caractère. Du jour au lendemain, quand on a mis le grec en ligne avec les tags en grec, la possibilité de rechercher en grec avec des traducteurs de mots-clés automatiques, on est passé de 10 documents à 2500 documents en grec. Donc, c'est vraiment... un frein extrêmement fort.
Nous, sur les langues, on a un malentendu, puisque historiquement, la plateforme était une plateforme plutôt positionnée comme une plateforme d'échange international. Donc, on avait évidemment fait plutôt la promotion de l'anglais comme langue vecteur internationale. Du coup, on se traîne un peu un a priori sur le fait que le réseau social n'est qu'en anglais. Donc maintenant, on essaie d'encourager des communautés locales, parce que ça a toujours été le cas. Donc par exemple, on a des Finlandais qui se servent quasiment enfin, il y a une communauté qui leur sert presque d'intranet, parce que c'est un petit pays, ils sont 70 ou 80 salariés. On a les Portugais qui s'en servent, et donc ils sont dans leur langue, entre eux, dans leur langue locale. Donc on essaie de contredire un peu cet a priori. Sur la contestation, nous, on a un exemple, nous, de communauté d'utilisateurs. C'était exactement sur la mise en place d'un outil applicatif maison, un outil de gestion d'administration des ventes. Et on avait créé une communauté pour toutes les équipes d'administration des ventes, donc qui étaient plutôt des assistantes commerciales, et qui étaient en phase de recettage de l'outil avant presque pré-lancement. Il y a eu une vague de contestation qui s'est portée puisque la communauté existait. Et qui s'est déchaîné sur le réseau social. Donc, étant peu expérimenté, la tentation, ça a été du manager, ça a été de... Et nous-mêmes, on n'était pas très chevronnés non plus, donc ça a été de fermer la communauté dans un moment de panique. Puis, on s'est bien gardé de le faire, parce qu'on s'est dit que c'était la pire chose à faire. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça a canalisé cette contestation. et que ça a embrayé dans la même journée, dans de l'entraide, c'est-à-dire qu'on a vu, et notamment ça a relié cette population qui était basée en partie à Paris, mais aussi en partie en région, puisque ces assistantes sont partout en France, dans nos directions régionales. Et finalement, on a des personnes assez chevronnées qui disent « Mais si, oui, effectivement, ce truc-là, il est mal fichu, mais si tu fais ça, tu peux contourner le truc, et moi, je fais comme ça, etc. » Et dans la journée, ça s'est transformé en quelque chose d'assez positif. Et ça a été même assez positif pour la communauté elle-même, parce que ça a rapproché les gens et ça a prouvé aussi l'intérêt de la communauté. Donc il y a eu un retournement très intéressant. C'est le seul cas qu'on ait eu de ce type-là. Oui, donc ça peut arriver, voilà.
Nous, au niveau des langues, alors la plateforme, elle est...
Il n'y a pas 430 000 langues, personne non, qui parle la même non, langue. Hein,
non.
Ça, c'est...
non, nous, la plateforme, l'interface est dans 9 langues différentes, je crois, maintenant. Mais la différence, ce n'est pas l'interface, c'est la langue qui est utilisée à l'intérieur de chaque communauté, en fait, la langue d'échange. Et là, c'est la langue que les personnes utilisent a priori. Si les réseaux, c'est en Allemagne, ce sera en allemand. Si c'est en Belgique, ce sera les Français. Mais si elle est internationale, en fait, la langue, c'est l'anglais et les français. Il y a des postes un peu en anglais, un peu en français. Après, voilà, ils s'alternent. De notre esprit, de notre idée, à un moment donné, moi, je ne pense pas qu'on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup au niveau des traductions en ligne. Hein. Peut-être que les futurs nous diront. Mais l'idée, c'est éventuellement d'avoir des passerelles humaines à un moment donné, qu'ils puissent, dans un pays, regarder qu'est-ce que ça se fait et après avoir un œil de jugement pour dire bon, ben, ça, c'est l'intérêt pour être traduit et passer dans des autres. Notre département communication fait déjà ça au niveau des communications. Ils ont créé leur réseau. Donc un jour, quand on aura une bonne structure de knowledge management, on fera un peu la même chose. En termes, l'autre côté de community manager, alors quel est le bon profil qui peut être un bon community manager? Moi, personnellement, je pense que tout le monde peut devenir un bon community manager. Ça dépend en fait de quel est l'intérêt de la communauté, des types de communautés, parce qu'il y a des types complètement différents de communautés. Il y a des communautés dans lesquelles il y a vraiment un besoin qu'est d'échange un peu sommaire. Il y a des communautés vraiment qui sont des communautés projets, et donc alors les community managers, c'est un chef des projets. Les rôles, c'est différent. Ce qu'on fait, on essaie de faire justement, c'est par rapport au rôle, on essaie de bien comprendre et de donner les formations, l'aide nécessaire pour porter à bon l'utilisation de la communauté. S'il y a des personnes qui sont pas vraiment très douées ou n'ont pas envie d'utiliser des nouveaux outils digitaux pour porter avant un discours au commun de leur communauté, on ne va pas non plus leur donner parce que ça ne sert à rien. C'est comme toutes les personnes, il y a des personnes qui sont plus douées ou plus portées pour utiliser un certain nombre d'outils différents. Donc voilà, c'est pas sur ces modèles-là qu'on se base, c'est vraiment sous l'attitude qu'ils ont par rapport à l'utilisation du digital.
Pour moi, en deux mots, le bon community manager, c'est quelqu'un qui a envie et quelqu'un qui connaît la population dont il doit s'occuper. À l'inverse, moi j'ai connu des gens dans certaines populations où il y a des managers qui ont décrété qu'ils allaient lancer d'autorité une communauté sur un sujet dans leur direction métier et qu'on désignait volontaire tel ou tel community manager. Vous imaginez qu'ils ont créé les conditions de la réussite et de la communauté et du rôle de community manager dans le...
Oui, je suis d'accord. S'il n'y a pas un intérêt personnel, ça ne marchera jamais. Donc il faut avant tout qu'il y ait un intérêt pour la personne.
Sur la question des community managers, justement, parmi les entreprises que j'ai rencontrées, j'étais surpris de voir la variété des modèles. Au sens, dans certaines entreprises, c'est très formaté. Au sens, dans la fiche de poste d'une personne, on indique qu'il va consacrer 10, 20% ou 30% de son temps sur une communauté. Donc là, c'est extrêmement formalisé. Dans d'autres, c'est absolument pas écrit. Donc en fait, c'est du travail en plus, en quelque sorte. Ou en tout cas, c'est pas du bénévolat, mais c'est pas directement considéré par son manager comme un travail en tant que tel. Et puis dans d'autres, en fait, c'est considéré, c'est pas dans la fiche de poste, mais c'est considéré comme faisant partie du poste, au sens où il y a un travail de coordination d'équipe ou un travail de coordination sur un projet. Et donc, ça fait partie de son poste, même si c'est pas nécessairement écrit, d'animer la communauté projet autour d'une communauté dans le RSE. Sur la question des langues, il me semble que de plus en plus, les éditeurs de solutions travaillent justement sur des outils de traduction automatique pour que je puisse écrire un post en français, par exemple, et qu'il puisse être traduit en anglais ou en allemand ou dans d'autres langues, si je ne maîtrise pas la langue. Et à nouveau, je pense que le problème, il n'est pas lié au RSE, au sens du problème de langue, on les retrouve dans les séminaires physiques, dans toutes les autres formes de communication. Donc, ce n'est pas du tout propre, en fait, au RSE.
Mais sauf que si vous voulez vraiment bottom, si vous voulez impliquer tout le monde, la langue est plus un obstacle que si vous vous arrêtez au niveau des cadres qui ont fait des études.
Effectivement. Sur l'anglais, on voit qu'une des sources de stress des cadres en France, c'est l'anglais. Donc on voit que même les cadres peuvent avoir du mal à
écrire l'anglais. C'est encore pire pour les contremaîtres.
Oui. Sur c'est la question des générations, savoir l'âge par rapport aux utilisateurs des RSE, c'est vrai qu'il y a souvent ce préjugé que ce serait un peu un outil envers la génération Y, etc. Et parfois, certaines entreprises l'ont lancé dans cette optique-là, en disant on veut attirer des jeunes entreprises, on veut être une entreprise qui soit 2.0, attirer des jeunes, etc. On se rend compte que ce n'est pas nécessairement les jeunes qui utilisent le plus. Et ça, c'est une de mes surprises, en fait, dans cette enquête. Savoir que parmi les gens que j'ai rencontrés, ils me disaient que l'âge n'était pas du tout un facteur clé. Ils étaient incapables de me dire s'il y avait plus de gens de génération Y, X, voire des seniors. Et c'est plus la personnalité de la personne qui est fait affaire. Est-ce que je suis ouvert en fait aux technologies? Est-ce que je suis technophile ou plutôt technophobe? Est-ce que j'ai envie justement de m'intéresser à des nouvelles formes de communication d'entreprise ou au contraire, est-ce que je reste sur mes habitudes? Et on sait que la fracture numérique, elle existe, y compris au sein de la génération Y. C'est pas parce qu'on sait utiliser Facebook et les jeux vidéo qu'on sait nécessairement utiliser les outils informatiques, etc. Et au contraire, je pense que cette faible utilisation, on voit que les générations Y sont assez peu producteurs d'informations. Ils sont peut-être plus consommateurs. Il y a peut-être plusieurs raisons. Peut-être que quand on arrive dans l'entreprise, on est peut-être moins sûr de soi pour pouvoir commencer à affirmer des choses ou à produire, partager des informations. Il y a peut-être aussi donc, le fait de manquer d'expérience. Et une hypothèse qui a été faite par un directeur de la communication que j'ai rencontré, c'est qu'il disait finalement, parfois les générations Y sont un peu trop jeunes pour avoir été vraiment dans le bain des RSE. Et il disait finalement, dans son entreprise, ceux qui participaient le plus au RSE, c'est plus des gens qui étaient un peu plus âgés, qui avaient des enfants qui étaient adolescents. Et il disait finalement, quand on a des enfants qui sont adolescents, bah, pour être dans le coup, on est obligé de s'intéresser à ce qu'ils font. Et du coup, ils étaient peut-être plus technophiles que parfois certains qui étaient un peu plus jeunes qu'eux, mais qui n'avaient pas baigné depuis toujours dans le monde digital.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, faire l'hypothèse que les jeunes seniors ont une certaine expérience à faire valoir, et deuxièmement, comme ils n'ont plus de carrière à faire, ils ont du temps pour échanger? C'est-à-dire que les jeunes, ils ont beaucoup de temps à faire pour trouver leur marque, pour faire leur carrière, et puis ils sont vulnérables. Les anciens sont moins vulnérables.
Alors, propriété intellectuelle, pour tout ce qui est dépôt de brevets, idées, innovations, on a un réseau à part. On ne partage pas. Comme ça, c'est clair. Ça, c'est une première chose. Et communauté de pratique et réseau social, effectivement, c'est deux choses qui sont complètement dissociées. Et comme vous le disiez, il peut y avoir des communautés de pratique sans réseau social et l'inverse. Le réseau social est un outil qui permet aux communautés de pratique de communiquer plus facilement et d'échanger des choses avec une plus grande facilité. Enfin, je me suis répété, excusez-moi, mais auparavant, c'était plutôt des réunions physiques, ils se voyaient une fois l'an, ça coûtait une fortune, et puis ils s'échangeaient accessoirement des choses, et éventuellement par mail quand ils avaient le temps. Là, c'est la communauté de pratique, grâce aux réseaux sociaux, est toujours en contact. Et ils ne se lâchent pas et ils échangent énormément.
Je suis obligé d'arrêter. Nous n'avons pas répondu à toutes les questions sur les réseaux sociaux. Nous n'avons même pas répondu à la question « Les réseaux sociaux d'entreprise tiennent-ils leurs promesses ?» Mais quand vous recevrez le compte-rendu, vous pourrez vous faire votre propre réponse à cette question. Prochaine soirée, le 2 juin à 19h, le sujet « Décrypter le chaos ambiant ». Je pense que ce sera un sujet d'époque.